Et je me souviens au début, quand on expliquait ça à Pierre-Édouard, il avait dit « Mais où est-ce que vous allez trouver votre pognon ?» On était au Hoxton, donc un hôtel dans le sentier qui est un peu le hotspot, qui était le hotspot des VC à Paris. Et je me souviens très gonflé de plein de trucs. Je dis à Pierre-Édouard, non, bah, ça va être très facile. Rien que si je fais le tour de cette salle de resto, si en sortant, j'aurai déjà les 100 bars. Et bon, en fait, c'était plus compliqué. Et ça a pris 18 mois.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Je suis David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute!
Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash, F-L-A-S-H. À très vite et bonne écoute.
Bienvenue dans La Galère. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Pierre Entremont, le cofondateur de First. Salut Pierre.
Salut David.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Bien sûr. Donc, je m'appelle Pierre Entremont, je suis cofondateur de First, qui est un fonds de venture capital seed. Donc, on investit au tout début de la vie des boîtes, dans des boîtes très principalement françaises. Et l'idée, c'est d'être donc le premier apport de capital dans une histoire qui va durer très longtemps et qui va construire des très grosses boîtes. Et avant ça, j'ai eu un parcours de un petit peu d'entrepreneur et puis un petit peu de consultant aussi, mais surtout entrepreneur avant de revenir vers les startups ensuite.
Alors, deux choses que tu n'as pas dites. La première, c'est qu'on a été co-douche quand on était ensemble à HEC. Donc voilà, on a partagé la même douche pendant 2 ans. Voilà, ça laisse des traces.
On n'espère pas.
Et la deuxième, c'est que First, c'est, enfin, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais c'est un peu le VC le plus ballsy de la place. Vous aimez bien dire que vous investissez pré-slide, voilà, vous êtes assez offensif là-dessus. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça?
C'est vrai qu'on investit très tôt. On est à l'aise pour investir en pré-produit, pré-KPI, pré-traction, pré-tout. D'ailleurs, ça
pré-founder.
Alors, pré-founder, c'est peut-être le seul truc qu'on peut pas faire, mais ça arrive souvent qu'on investisse dans des boîtes qui sont pas encore immatriculées, ou en tout cas qu'on envoie la term sheet à un moment où la boîte est pas encore immatriculée. Et justement, en fait, c'est tout ce qu'on fait. C'est qu'on s'est dit que dans le marché français, il y avait un trou à ce niveau-là, que autant à partir de la série A, série B, etc., il y avait beaucoup d'argent français international, mais qu'en revanche, des gens qui étaient capables de mettre un chèque significatif au tout début de l'aventure pour permettre à la boîte d'avancer vers le product market fit avec les ressources au bon niveau, et ben ça, il n'y avait pas vraiment, et c'est ça qu'on fait chez First.
Ok, on va y revenir, mais avant, commençons par le début. Donc Pierre, toi, tu n'as même pas grandi à Paris. Comment est-ce que t'es venu à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça? Raconte-nous les débuts de ton histoire.
Alors, j'ai effectivement grandi à moitié à Paris. Et c'est toujours facile de trouver des liens dans son histoire familiale. Mais mon grand-père était entrepreneur et il a créé une boîte qui a mon nom d'ailleurs, la boîte de fromage. Et du coup, dans mon roman familial, j'ai toujours eu ça. Et je me suis toujours dit que c'était dans cette direction-là que j'avais envie d'aller, avec au début de façon un peu plus approximative, sans forcément penser à la tech. C'est pour ça que j'ai commencé par faire un peu de private equity, et très vite je me suis rendu compte que c'était la tech qui m'intéressait, et je me suis orienté vers ça très très vite.
Et donc t'as lancé ta première boîte quand t'étais encore étudiant. Raconte-nous un peu cette aventure-là, raconte-nous ce que c'était et ce que t'en as fait.
Carrément. Donc, quand on était à l'école d'ailleurs, donc j'ai commencé par faire un peu de private equity en stage, donc investir dans des boîtes traditionnelles qui valaient 300-400 millions d'euros et qui fabriquaient des fils électriques, des vis, n'importe quoi.
Et l'idée, c'est que tu investisses dans ces boîtes-là, que tu les restructures un peu, que tu améliores les process ou quoi, pour augmenter la rentabilité de la boîte et ensuite la revendre. C'est ça le principe du private
equity. Alors, il y a plein de types de private equity. C'est ce que tu viens de citer, c'est le retournement. Ça existe aussi. Là, en l'occurrence, c'était des boîtes en bonne santé. Donc, simplement, tu rachètes la boîte, tu mets beaucoup de dettes dessus. Comme c'est une boîte saine, elle génère de l'argent et tu utilises l'argent pour rembourser la dette et tu la revends 5 ans plus tard. Et donc, c'est un métier passionnant, mais qui me semblait manquer un peu du dynamisme qu'on trouve dans la tech. Parce que forcément, c'était des boîtes un peu établies. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai continué ma césure pour aller en stage chez Rocket Internet, qui ouvrait son bureau de Paris à l'époque.
T'es allé chez Rocket avant que ce soit sexy, faut le dire quand même. À le moment où t'es allé chez Rocket, personne savait ce que c'était.
Ah, et puis Rocket France venait d'ouvrir. Rocket France, c'était un bureau avec 4 personnes. On était dans un Regus à l'époque. Et donc, il y avait les deux founders qui après ont eu des parcours de dingue de Rocket France, qui sont devenus Rocket Afrique, etc. Et on était 2 ou 3 stagiaires là-dedans.
T'as bossé sur quelle venture de Rocket? Donc, pour ceux qui connaissent pas Rocket, c'est, un startup studio slash fonds d'investissement allemand qui réplique des modèles qui cartonnent, genre Amazon, dans des pays où ça existe pas. Et donc, comme ça, ils ont lancé, par exemple, Jumia, le Amazon de l'Afrique, et ils prennent ces parts de marché en faisant ce qu'on appelle des copycats, donc des copies de modèles existants dans des pays où ça existe pas.
Absolument. Et en fait, ce dont ils se sont rendus compte en ouvrant la France, c'est que ce modèle-là de copie marchait plus dans les pays développés parce que les choses étaient devenues trop compliquées. Et après l'échec de la France, parce qu'ils ont fermé la France assez vite, ils se sont recentrés sur que les pays en développement où c'est un petit peu plus simple, où c'est un petit peu plus, il s'agit un petit peu plus de construire des infrastructures de base, genre marketplace, d'appartements, de voitures, de ci, de ça, plutôt que des réseaux sociaux ultra complexes avec des mécanismes hyper poussés, etc. Où là, il y a besoin d'une authenticité plus importante que simplement copier. Mais bon, donc, moi, à l'époque, quand j'étais là-bas, on essayait de copier des trucs, des modèles US en France. Et avec un succès assez limité, hein, c'est pour ça que très vite après, ils se sont recentrés sur l'Afrique. Et une des boîtes avec lesquelles j'ai travaillé à cette époque-là, c'était Birchbox, donc une beauty box. Donc tu payes 20 euros par mois, tu reçois une boîte en carton avec des produits beauté dedans, qui était une copie d'un modèle US qui s'appelait Birchbox, justement, la copie c'était Glossybox, pardon. Et donc je voyais que ça me donnait l'impression de bien marcher et ça m'avait pas l'air si sorcier que ça à copier. Et du coup, après avoir vu 3 mois ça, après avoir été pendant 3 mois comme ça, normalement c'était un stage de 6 mois, mais dans le bain de l'agressivité maximale, l'ambition, l'attaque, vraiment échevelé, je me suis dit ok, bah j'ai envie de faire ça, mais pour moi j'ai pas envie de le faire pour eux. Et du coup, je me suis dit, pour le moment, tout ce que je connais, c'est copier des business, puisque j'avais vu ça chez eux et qu'à l'époque, j'étais un bébé, quoi. Je connaissais rien. Maintenant, je ferais ça très différemment, évidemment. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire un truc à cette sauce-là, je vais copier un truc et puis ça va aller vite. Et puis, dans 8 mois, on aura revendu la boîte et on sera très content.
8 mois.
Attention, ne le faites pas à la maison. Hein. Je ne recommande pas du tout de le faire maintenant.
C'était réalisé par des professionnels.
Ouais, et même pas des professionnels. Ça a été réalisé à l'époque par un enfant inconscient qui a fait n'importe quoi. Mais...
Et du coup, raconte-nous. Donc là, tu te barres de Birchbox et tu te dis je vais monter ma box.
Ouais, exactement.
Comment est-ce que tu trouves déjà le concept de la box?
En fait, à l'époque, on tournait autour de cette idée-là de box parce que ça avait l'air facile à lancer avec peu d'argent rapidement et puis le nombre d'abonnés pouvait monter rapidement.
C'était quand même l'époque, ouais. J'ai l'impression qu'il y a dans l'entrepreneuriat, il y a des modes à des moments. Il y a eu la mode des box quand même où tu payais pour recevoir des trucs sans trop savoir et c'était vraiment ce moment-là,
ouais.
Birchbox, etc., où tout le monde y avait des box dans la bouffe, des box un peu dans tout. C'était un peu ce moment-là où tout le monde voulait lancer sa box.
Ouais, il y en a eu des tonnes parce que en fait, il suffit pour démarrer de 10 000 euros à tout casser. Il faut juste un peu d'énergie et 10 000 euros. Donc forcément, ça a attiré beaucoup de gens. Donc nous, on était au début de ce truc-là et on avait vu passer dans un journal, que dans plein de journaux, en fait, que la cosmétique pour hommes explosait, soi-disant. Et du coup, on s'est dit, d'un côté, il y a un modèle qui marche, c'est la cosmétique pour les box. De l'autre, la cosmétique pour hommes explose. A plus B, on fait ça. Et donc, avec un pote qui était à l'école avec moi et qui est devenu mon associé, du coup, on a démarré ça. On s'est mis une timeline hyper serrée. On s'est dit, no matter what, il faut que dans 6 semaines, on envoie les premières. Et donc, on a mis tout le monde dans la seringue. On tapait sur tout le monde parce que c'est la culture Rocket aussi. Je me souviens, tu vois, typiquement, ça, c'est un truc qui m'avait vraiment impressionné chez Rocket. C'est, t'appelles un mec, tu prends un rendez-vous avec lui, il te dit... ah mais ok on se voit dans 3 jours, tu raccroches, t'es content, et ton boss il dit non mais pas du tout en fait, tu vas le rappeler, tu vas lui dire que t'es en bas de son bureau dans 20 minutes et tout comme ça. Et du coup bon c'est un peu brutal, mais n'empêche que pour tenir des timelines c'est pratique. Et du coup on a en moins de 2 mois on faisait les premières ventes, etc. Et
raconte-nous comment tu l'as fait de cette première box, parce que tu nous as passé le truc le plus dur, parce que le business model de ces trucs-là, c'est quand même d'aller voir L'Oréal et toutes ces marques-là, de leur demander de te filer des échantillons que tu mets dans tes boîtes. Comme ça, ta boîte, t'essayes d'augmenter la marge, parce que quand même, c'est même si c'est payé 20 balles, faut que tu payes la boîte, faut que tu payes l'envoi, etc. Donc c'est un business model qui est difficile à trouver, et surtout avec des marges très faibles quand t'as peu de volume.
Ouais, tout à fait. Donc en gros, ouais, tu vends le truc 20 €. En enlevant la TVA, il te reste 16. Là, tu as peut-être 2 € de boîte, 5 € d'expédition, 1 ou 2 € de conneries que tu fais fabriquer, des petits stylos, des petits gadgets et tout. Et là, il te reste 5 gros € de marge, et tu pries pour qu'il n'y ait rien d'autre qui te l'attaque. Et donc, pour remplir ta box vraiment, tu as besoin d'aller effectivement choper des produits que les marques te donnent. Et donc, bah, pareil, on a appelé toutes les marques de France et de Navarre.
Comment tu trouvais leur numéro? Comment t'as trouvé le premier
C'est un truc que j'avais appris chez Rocket aussi, parce qu'on avait besoin de démarcher des marques. Et donc, tu trouves un nom qui a l'air intéressant sur LinkedIn, tu trouves le numéro du standard, t'appelles, tu mens à la secrétaire, t'arrives sur la deuxième secrétaire, tu remens à la secrétaire, et quand t'as de la chance, tu tombes sur la personne, et là, t'as 30 secondes pour lui raconter ton truc.
Tu faisais tout en cold calling?
Ouais.
Alors qu'aujourd'hui, on a inventé Casper et Lucha, ça t'aurait pris un clic.
Non, c'est sûr que... Alors, je ne sais pas si ça aurait marché à l'époque, je ne me rends pas compte, mais en tout cas, c'était du bon vieux téléphone. Et c'était... globalement, on faisait à peu près n'importe quoi. Hein, mais par contre, on mettait énormément d'énergie, donc c'était de la force brute, pas très maligne. Mais à force, voilà. Donc, on a réussi à remplir la première box. On a fabriqué 500. Et on appuie sur le bouton launch, quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a eu, alors je sais pas si c'est de la chance ou j'en sais rien, mais c'est qu'on appuie sur le bouton launch. Et 2 minutes plus tard, on va savoir comment Facebook, qui avait montré mon post à je ne sais qui était ami avec une blogueuse un peu connue de l'époque, Capucine Pio, je crois. Et donc elle retweet, elle reposte ce truc, quoi. Et donc instantanément, on prend 40 ventes. À 20 ou 25 euros, je sais plus combien on vendait ça. Et puis ça part, et les 500 premières commandes, on les fait en 2 jours, quoi. Et donc on était comme des dingues.
Donc là, tu t'es dit, c'est bon, je suis milliardaire.
Alors il y avait une petite anecdote marrante qui va te plaire, je pense, c'est que on voulait absolument lancer, comme je te disais, on mettait tout le monde dans des timelines de ouf. Et notamment, pour brancher la brique de paiement sur le site, à l'époque, il n'y avait pas Stripe. Donc fallait faire des contrats à la con avec ta banque, c'était l'enfer. Les banques, c'était Société Générale ou je sais pas quoi, le conseiller était en formation 3 jours sur 4 et en vacances 1 jour sur 4, injoignable, etc. Et donc on avait tout sauf le module de paiement. Et donc on avait dit, on s'en fout, on lance quand même, et puis au moment où les gens payent, on leur met un email et on leur demande de mettre l'email et on leur dit, on revient vers vous dès qu'on a le truc de paiement. Et donc, énorme frustration.
Incroyable. Donc là, les mecs étaient clients sans avoir à payer. Et toi, t'avais le risque que le mec, il reçoive sa box et qu'après, il te paye jamais, quoi.
Non, surtout que quand on... Non, on n'allait pas lui envoyer sans qu'il ait payé. Mais par contre, que quand on allait revenir vers lui, même si lui, il avait fait tout le parcours client, eh ben, il veuille plus payer, tu vois.
Ouais, qu'il dit, c'est quoi ça, arnaque, c'est bizarre, j'ai pas l'habitude.
Et donc, pareil, mindset un peu énervé. Donc là, t'imagines, t'as les ventes qui tombent, ça fait ding, 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 et t'as pas le module de paiement. Et du coup, j'appelle la banque. Là, alors le mec n'est pas là, il est en formation évidemment. Je tombe sur sa voisine de bureau qui répond et je lui dis, il nous faut le module de paiement, genre maintenant. Et elle me dit, ah non, il est en vacances, il est en formation. Et non, vous avez pas compris, c'est vraiment, on va l'avoir maintenant, je vous assure. Et elle me dit, non, il revient dans 3 jours. Je dis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de maintenant, je vais vous appeler toutes les 2 minutes et je vais vous appeler 50 fois s'il faut. Jusqu'au moment où vous allez me donner mon module de paiement. Et vous pouvez pas faire ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Peu importe, moi je vais faire comme ça en fait. Et dans la journée, nous l'ont mis. Et donc comme ça, on a pu encaisser.
Et tu l'as appelé combien de fois au final?
3 ou 4, un truc comme ça.
Et tu l'as vraiment appelé toutes les 2 minutes? Ouais, bien sûr, ouais.
Évidemment. Et donc, ça c'était le début. On a vendu les 500 box très vite. Et puis ensuite, c'est monté assez vite en fait à 2000 box vendues par mois. Donc ça faisait quand même, on les vendait 25€, donc ça faisait 50 000 euros de chiffre d'affaires par box.
Et rien en plus parce que les mecs étaient en mode abonnement, donc ils mettaient leur carte une fois et après c'était redébuté.
Ça c'était bien. Il y avait un autre truc, alors on avait un churn de dingue, hein. On avait 30% de churn d'une box à l'autre. Et mais bon, on était tellement...
Le churn, c'est ce qu'on appelle le taux d'attrition, c'est le nombre de clients que tu perds d'un mois à l'autre.
Et pour te montrer à quel point on était amateur, ça nous a pris un moment déjà de calculer qu'on avait 30% de churn d'une box à l'autre. Ça me fait bien marrer maintenant, mais... et donc, ça, c'était un truc bien dans le business model. Et un deuxième truc très bien dans le business model de tous ces modèles-là, c'est que le client, il te paye au jour 1 et toi, tu lui envoies sa box au jour 20, 25, 30. Donc, en fait, il te prête de l'argent.
T'as un BFR négatif.
Et donc, ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est quand... c'est avec des entrepreneurs très jeunes, très débutants, très plein de choses, et ils ont peut-être tendance un peu vite à confondre l'argent de leurs clients avec l'argent de la boîte. Et surtout que moi, je croyais que mon associé était en charge de la compta et mon associé croyait que c'était moi. Et du coup, un jour, au bout de quelques mois, on se rend compte qu'en fait, on a 40 000 euros de dette vis-à-vis de nos clients, tu vois.
Dans quoi tu les as dépensés
Ça va vite, hein. C'est juste les ops. Un coup, tu te dis, j'aimerais bien rajouter une connerie dans cette box-là parce que j'ai pas réussi à démarcher je ne sais quoi ou ainsi de suite. Et donc, on se rend compte de ça après quelques mois. Et bon, finalement, on a réussi à éponger parce que après, on a fait plus gaffe, etc. Mais ce côté BFR négatif, c'est évidemment très cool. Mais du coup, faut faire attention parce que c'est pas ton argent en réalité.
Et il me semble aussi que pour lancer cette première box, pour le design, etc., tu avais fait appel à d'autres gars, tu leur avais donné des parts, etc. Est-ce que tu as fait un peu n'importe quoi là-dessus si on est dans toutes les erreurs du début d'entrepreneur?
Carrément.
Le classique, j'ai pas de thunes, donc je donne mes parts à toute la terre pour un travail hyper ponctuel, ça arrive.
Carrément. Alors, c'est l'enfer de faire un podcast avec quelqu'un qui vous connaît depuis 10 ans. Parce que effectivement, du coup, on n'avait pas d'argent. Et j'avais lu à l'époque le mémoire de Oliver Samwer, le founder de Rocket Internet, dont on parlait tout à l'heure. En fait, quand il avait 20 ans, il est parti dans la vallée et il est allé interviewer 500 CEO de boîtes dans les années 2000. Et il a pondu un mémoire qui était son mémoire d'études d'ailleurs de 200 pages que j'avais lu, dans lequel il donne plein de conseils qu'il a intuité en étant là-bas. En vrai, il y en a plein qui sont pas bons, mais c'est pas grave, j'avais lu ça à l'époque. Et notamment celui-ci, il est pas bon, mais je l'avais appliqué quand même. C'était, au début, vous avez pas d'argent, donc filez plutôt, payez tous vos prestats en equity. En vrai, faut pas faire ça, l'argent tombe du ciel en ce moment, donc c'est pas une bonne idée. Mais bon, j'avais lu ça et je voulais le faire. Et du coup, pour le graphiste de la boîte, le photographe, le ci, le ça, on avait distribué des actions à tout le monde. Mais sauf que comme on avait d'autres chats à fouetter que faire des contrats et border le truc... on l'avait fait vraiment à l'arrache, quoi. Donc, on avait.
T'avais juste donné la part sans aucun pacte d'associé.
Ouais, enfin, donner, tu peux pas vraiment. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais filé des billets, des euros aux différentes personnes. Et à l'immatriculation de la boîte, vu que c'était capital social de 1000 euros, chacun avait mis, le mec qui devait avoir 10%, il avait mis 100 euros, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, de fait, tout le monde était actionnaire. Et en échange, ils devaient travailler. La plupart ont tenu leur truc. Sauf qu'il y en a un qui était le photographe. Il était censé prendre des photos parce que chaque mois, il fallait prendre des photos des box, tu vois. Et je me souviens, on lui avait donné 2%. Et le mec n'a jamais pris une photo, en fait. Et à chaque fois, sa grand-mère était malade, son chat était mort, son appareil photo était en panne, etc. Et après un an, parce que du coup, on était dans le jus, en plus, on avait nos études en même temps, donc c'était vraiment intense. Et après un an à opérer, on avait nos 2000 abonnés, c'était cool et tout. On commence à parler pour une levée de fonds avec des gens. Et on se dit, bon, il faudrait cleaner ce truc. Donc, on va voir le mec et on lui dit, bon, mec, t'as jamais pris une seule photo. Donc, ça serait peut-être pas mal que tu nous rendes nos parts. Et comme on est sympa, on va te les racheter. Elles t'ont coûté zéro et on te propose, on lui proposait 10 000 euros en bout de négo, alors qu'il avait jamais rien fait, juste pour qu'il nous rende nos parts. Et le mec nous répond, j'ai encore le mail, je leur lis parfois quand j'ai besoin de me dynamiser un peu. C'est non, j'ai pas envie de les vendre parce que vous m'avez l'air de travailler dur et du coup ça va valoir plus. Et donc quand t'es dans le jus et que tu travailles tous les jours à 3h du mat en sueur froide, etc., lire ce genre de truc, t'as vraiment envie de le tuer, en fait. Et donc c'était pour l'anecdote, effectivement. Donc il faut, même si c'est tentant d'aller à l'arrache sur les sujets d'actionnariat, cap table, etc., faut quand même se border un peu. Ouais.
Et il faut savoir, donc du coup t'as fait ça et en parallèle t'as fait le master entrepreneur.
Ouais.
Pas trop dur?
C'était un peu intense, ouais.
C'est un master où tu bosses pas mal, et surtout c'est un master où c'est bien de se mélanger avec les groupes, discuter un peu avec tout le monde. Faut avoir du temps, faut avoir l'esprit libre. Ça devait, enfin, moi qui l'ai vécu l'année d'après toi et qui avait l'esprit libre, ça a changé tout. J'aurais pas aimé avoir une boîte à gérer.
Ouais, honnêtement, c'était pas très agréable du coup, parce que t'es 24/24 et t'es jamais full dans ton truc. Enfin, quand t'es sur ta boîte, t'es full sur ta boîte parce que tu penses évidemment pas au cours. Mais en revanche, quand t'es obligé d'être à ta table, à écouter un prof ou whatever, ou même à faire une mission, un truc comme ça, t'es pas vraiment dedans parce que t'as ta boîte. Je me souviens notamment d'une scène légendaire où j'étais en cours d'espagnol et j'avais, on attendait un truc de ouf, genre on attendait une date de meeting avec le COO du groupe L'Oréal ou la réponse, son feedback post-meeting ou un truc comme ça. Et donc j'avais mon téléphone sur ma table. Et le prof, il dit...
Jordi,
ouais,
le fameux Jordi.
Exactement, Jordi. Il dit, rangez votre téléphone. Je dis, non, je vais certainement pas ranger mon téléphone, non. Du coup, bon, le reste, du coup, ça s'est mal passé ensuite.
À court que t'as dévalidé.
Mais ouais, du coup, c'est difficile de joindre les deux. C'est, évidemment, ça a des avantages aussi, parce que du coup, j'ai vécu plus de trucs. Mais du coup, j'ai pas vraiment profité, ouais.
Comment elle s'est finie, cette histoire, alors, dans D-Box?
Du coup, on a fait ça toute la dernière année d'école. On avait deux ou trois entre guillemets salariés, plutôt sur des formats pas trop salariés, et on avait nos 2000 abonnés. On avait un churn de dingue, donc on perdait 30% des abonnés à chaque mois et on les regagnait. Et on n'arrivait pas à grandir au-dessus de 2000.
C'était quoi tes canaux d'acquisition du coup?
C'était les influenceurs. À l'époque, il y avait pas tant Insta, c'était les blogs. Donc on allait voir les blogueuses sur des channels de blogs. J'ai oublié comment ça s'appelle. Hello Cotton. Et on leur offrait une box pour elles, plus deux box, et faire gagner leur communauté. Elles faisaient un petit concours, elles avaient 50 personnes qui candidataient.
Donc la micro-influence, quoi.
Ouais, vraiment, et c'était pareil, de l'huile de coude big time. Et donc on stagnait à 2000 abonnés. En gros, un jour, on commençait à se dire que c'était un mini marché, en fait, cette histoire de Cosmeto pour hommes, et que ouais, les journalistes ils regardent, ils prennent leurs infos rue de Bretagne, donc forcément ils ont l'impression que tout le monde en achète, mais en fait pas du tout. Et donc un jour on finit par avoir ce fameux meeting avec des gens de L'Oréal, donc le COO du groupe L'Oréal, donc numéro 3 du groupe, et il avait invité avec lui le head of M&A du groupe L'Oréal, et même pas une division, genre vraiment groupe. Et du coup, le meeting est reschedule 4 fois à 3 mois, enfin ça prend des semaines, etc. On finit par y aller, ils nous écoutent, ils sont sympas, machin, et le mec nous dit à la fin, bon, vous m'avez l'air d'être des jeunes gens dynamiques. Si jamais vous voulez travailler avec nous, on vous trouvera de la place. La maison est grande. Hein, Jean-Michel, la maison est grande. Ah bah oui, c'est vrai. Donc pas de souci. Hein, nous, les forces vives comme vous, on aime bien et tout. On vous trouvera, pas de souci. Mais par contre, faut que je vous dise un truc. La cosmétique pour hommes, ça n'existe pas. C'est pas stratégique pour le groupe L'Oréal en Europe. On a décidé que c'était pas stratégique il y a plusieurs années. Il y a deux pays où ça existe. C'est le Brésil et la Corée du Sud. Donc si vous voulez faire votre boîte, c'est au Brésil ou en Corée du Sud. Et pour le reste, c'est mort. Et c'est pas un marché. Et du coup, on dit, ah bon, bah, c'est emmerdant quand même. Et donc, on sort de là.
Tu t'es pas dit, mais non, justement, L'Oréal se place pas, j'ai ma niche à prendre.
A priori, ils ont plutôt des bonnes infos quand même. Et donc, on sort de là, on se dit, bon, en plus, ça correspond un peu avec ce qu'on sent, qui est que le marché, il est pas là, quoi. Il n'y a pas des foules. Nos 2000 abonnés, c'est les 2000 personnes que ça intéresse en France, et puis voilà. Donc on réfléchit, on se dit, bon, oui, on pourrait aller en Corée du Sud et au Brésil. Le truc, c'est que ça revient à créer une nouvelle boîte. Et du coup, quitte à créer une nouvelle boîte, est-ce que ça nous intéresse vraiment de faire une box, bof, et de la cosméto pour hommes, encore moins. Du coup, quitte à créer une nouvelle boîte, autant vraiment faire une nouvelle boîte et arrêter celle-là. Du coup, on s'est dit qu'on voulait arrêter. On avait des propositions de levée de fonds, on pouvait lever 500 000 euros assez facilement. À l'époque, ça doit être l'équivalent de 500 000 euros à l'époque, c'est l'équivalent peut-être d'un million, un million et demi aujourd'hui. Et donc, on aurait pu, mais on le sentait pas parce que vraiment, on n'avait pas la... Déjà, on était cramés, parce qu'avec l'école en même temps, vraiment, on était cramés. Et ça, c'est un truc que je garde maintenant. C'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup cette expérience, c'est que enfin, même si c'était à une toute petite échelle ridicule, alors je sais ce que c'est de se lever, de se réveiller à 3h du mat en sueur froide, en pensant que la terre va te tomber dessus, quoi. Et c'est normal quand t'es entrepreneur, et ça fait la diff de l'avoir ressenti vraiment. Et donc on était cramés, on n'était pas attirés par le sujet, Et en plus, on voyait qu'objectivement, le sujet avait un potentiel très limité et qu'on avait d'autres chats à fouetter, quoi. Qu'il y avait un coût d'opportunité vachement fort à continuer. Donc, on s'est dit, on veut arrêter, on va trouver quelqu'un pour nous racheter. Et là, on a trouvé un type qui voulait devenir entrepreneur et qui avait un petit peu d'argent de côté. On a fait un deal voilà, on n'a pas gagné d'argent, on l'a vendu 3 francs 6 sous, mais lui a continué ensuite pendant quelques années. C'était marrant, c'était marrant de voir que ça continuait à exister. J'aurais pas fait comme il l'a fait si ça a été moi, mais bon, c'est le jeu, je pense. Et voilà, donc fin de l'histoire d'Handybox. Et là, on s'est demandé avec mon associé si on recréait une boîte. C'était, les étoiles n'étaient pas complètement alignées. Lui, il avait des trucs perso à gérer à ce moment-là. Et du coup, si je le faisais, c'était pas avec lui. Et du coup, sans associé, un peu cramé, je me suis dit bon, je vais peut-être aller me reposer un peu dans le salariat.
Et donc, t'es allé chez McKinsey, qui est la boîte où tu te reposes le moins au monde, peut-être.
Je me suis dit, je vais me mettre sur des rails pendant un moment. En plus, j'ai fait une connerie d'estimation de taille de marché, donc peut-être me mettre un peu de plomb dans la tête, ça peut pas me faire de mal. Et donc, je vais travailler. Et là, je me dis forcément, qu'est-ce que c'est le truc le plus shiny que je puisse trouver. Et donc, à l'époque, c'était McKinsey. Et j'apply, ça se passe bien, ils me font une offre, donc j'y vais. Et là, ça me plaît pas du tout. Je tombe en plus sur des missions. Ça dépend beaucoup là-bas des missions sur lesquelles tu tombes, mais je tombe sur des missions de corporate finance avec des Allemands jusqu'à 4h du mat tous les jours. On faisait 8h30, 4h tous les jours, dans une tour à la Défense. C'était l'enfer. Et donc, j'ai fait ça un an. Et vraiment, j'étais l'ombre de moi-même. J'étais nul en plus, objectivement. J'étais au-dessus de la barre pour me faire virer, mais pas loin. J'étais nul. Et donc, j'étais pas là.
Pourquoi t'étais nul?
Bah, parce que quand t'es pas en train de faire des activités dans lesquelles t'es bon et dans lesquelles tu t'épanouis, et que en plus tu mets le doigt là-dedans et que tu commences avec en plus du manque de sommeil, et que tu commences une spirale de je suis pas bon, j'y arrive pas à dormir, je prends pas de plaisir, et qu'en plus t'es en début d'un job où t'es censé ramp up et où ça se passe pas, vraiment c'est, en fait t'as pas de force de rappel, quoi, et tu te fais écraser par le truc. Donc objectivement c'était pas ouf. Et donc après un an où ils veulent me remettre sur une mission atroce avec notoirement les pires partenaires de l'histoire, etc. J'aurais dit non, bah en fait je suis pas obligé d'être là, donc je vais m'en aller en fait. Et donc je suis parti.
T'es à deux doigts du burn-out en fait, quasiment.
Ah mais j'étais burné, j'étais complètement burné. Je me souviens, émotionnellement je tenais plus debout, c'était l'enfer. Et donc je me dis bon, mon plan au début c'était de recréer une boîte après 2 ans. Là, ça fait 1 an que j'y suis, donc c'est pas grave, je vais recréer une boîte après 1 an. Et donc là, je me mets à faire plein de trucs startup related. Donc là, je travaille un peu chez eFounders pendant 3 mois. Je fais une espèce de mission de conseil avec une boîte qui s'appelait Mention à l'époque, qui a été vendue depuis.
Vendue, ouais.
Ouais.
Un petit
donc,
succès.
Ouais, c'était une boîte intéressante. Et je fais ça et d'autres trucs chez eFounders. Je rencontre Thibaut Hézière à cette époque-là, qui est un des acteurs clés. Un des acteurs clés de l'écosystème et de l'époque et d'aujourd'hui. Et donc c'était très bien. Mais bon, je me dis, j'ai quand même envie d'être vraiment chez moi. Et donc après 3 mois, je dis à Thibaut que j'ai envie de faire mon truc, quoi.
Donc ouais. Là, on va arriver dans une phase intéressante. C'est la phase où tu t'es dit, je veux monter une boîte, mais tu n'avais aucune idée. Et donc, tu as fait un peu le consultant. Tu as regardé plein d'opportunités.
Ouais, ouais, j'ai fait probablement ce qu'il ne faut pas faire. J'avais pas d'associé et pas d'idée. Et le seul truc que j'avais, c'est un espèce de feu de j'ai envie de faire quelque chose, quoi. Et donc là, je me suis mis à regarder des dizaines d'idées. À chaque fois que je regardais un truc, je faisais, quand c'était du B2C, une landing page, je mettais $20 depuis Facebook, j'allais voir tous les acteurs de l'industrie, les historiques, les startups qui travaillent dedans, les entrepreneurs dans le domaine, des associés potentiels, CTO. Et à chaque fois, je creusais, ça faisait des streams de 1 ou 2 semaines. Et dès comme ça, j'en ai fait littéralement 30 ou 40, quoi. Et le truc, c'est que je trouvais toujours une raison de pas le faire, un truc qui m'allait pas ou qui était pas bien. Et ça montre que j'avais pas la bonne façon de chercher, parce que objectivement, rétrospectivement, sur les 40 idées, il y en a peut-être 15 qui étaient viables et qui permettaient de faire des belles boîtes. Mais c'était, mais juste, j'avais pas la bonne approche pour chercher. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont cette approche-là, de chercher des raisons de pas faire, quand ils cherchent, quand ils veulent, les gens qui veulent créer des boîtes comme ça de façon un peu en chambre et qui en plus ont cette approche de chercher des raisons de pas faire, ça marche jamais. Il y a eu plein d'exemples au cours des dernières années de pseudo-studios ou autres qui ont raté là-dessus. Et parce que c'est tentant de trouver des raisons de pas faire. Alors qu'en fait, c'est le contraire, faut faire, trouver des raisons de faire. Et donc j'ai passé 6-8 mois comme ça. Au début, super excité, je vais dominer le monde depuis mon canapé. Et au bout de 6-8 mois, t'es toujours sur ton canapé, ta réserve d'énergie, elle commence à décroître, de psychologie, elle commence à décroître, d'argent, elle commence à décroître.
Et le regard des autres aussi, non ? Le fait que les gens te voient comme un chômeur, alors que toi, t'as l'impression d'être hyper actif, et les gens, de l'extérieur, ils ont l'impression, en fait, t'es dans ton canapé en pyjama, à faire semblant de monter une boîte, quoi.
Alors, je me souviens pas tant que ça de précisément cette pain-là, même si c'est sûr qu'elle existait, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que quand tu te lances dans un projet, d'ailleurs, quel qu'il soit, et notamment un projet entrepreneurial qui est hyper drainant, il faut être honnête avec soi-même sur quelles sont tes ressources. Donc, tes ressources, c'est évidemment en termes d'argent, ce que tu vas pouvoir tenir les premiers mois, les premiers machins, mais pas que. Aussi, en termes de psychologie. En fait, c'est une jauge, quoi, et t'as ta jauge d'argent et ta jauge de psychologie. Et il faut être honnête vis-à-vis de toi-même parce que tu t'apprêtes à aller traverser un petit désert. Et donc, si tu rentres dans le désert sans eau, t'es mal barré. Et donc, oui, l'argent, ok, mais vraiment, j'insiste, la psychologie. Si jamais tu commences vanner, tu feras pas le désert, en fait. Et donc, faut s'assurer d'avoir un peu d'être un peu robuste au moment d'y aller. Et là, j'avais clairement un peu bouffé mes réserves. Et du coup, après 6-8 mois, je me dis, bon, ok, là, je vais pas y arriver. Il y a un truc que je fais mal, je sais pas quoi, mais il y a un truc que je fais mal, donc je vais changer d'approche. Et donc, je vais travailler. Et
travailler où ?
Et du coup, bon, le meilleur métier que je connaisse, c'est entrepreneur successful. Le deuxième meilleur métier que je connaisse, c'est VC. Parce que c'est avec les entrepreneurs et que j'ai toujours, s'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est que je serai proche des startups toute ma vie. Et du coup, VC, ça a l'air pas mal, donc je vais faire le tour des gens qui recrutent en ce moment. Et donc je parle un peu tous les fonds de la place. Et là, je rencontre parmi les opportunités que je creuse, il y en a une qui est particulièrement atypique et intéressante. C'était donc Autium, le family office de Pierre-Édouard Sterrin, un entrepreneur français qui a créé une boîte qui s'appelle Smartbox, les coffrets cadeaux à la Fnac, une grosse boîte qui produit plusieurs dizaines de millions d'euros d'EBITDA par an.
Donc un family office, c'est tu gères son argent pour investir dans des startups.
Ouais, exactement. Et donc Pierre-Édouard Sterrin, c'est un type hyper attaquant, ambitieux, etc. qui à l'époque avait l'envie de déployer pas mal de son argent en startup. Et il s'est trouvé que il y avait cette possibilité à ce moment-là de démarrer une activité d'investissement chez Autium, relativement autonome, à deux avec une personne qui s'appelle Bruno qui est devenu mon associé après. Et donc il y avait des inconvénients évidemment. Il n'y avait pas vraiment de brand name dans le monde entrepreneurial. Les bureaux étaient à Courbevoie avec Smartbox, qui est quand même compliqué quand tu fais du VC. On n'avait pas de track record, rien, mais par contre on avait une relative liberté d'action pour construire ce qu'on voulait avec Bruno et de l'argent.
Et t'es arrivé chez Autium au tout début, c'est-à-dire avant que Stanislas Gnoc-Château, que les mecs de Mano Mano soient là. T'es arrivé à quel moment ? Parce que à chaque fois que j'entends des histoires de Autium, j'ai l'impression qu'il y a deux équipes, il y a la tienne et d'autres. Enfin, je comprends pas bien comment ça marche.
En fait, il y a eu trois générations. Il y a eu la première génération, ça a été effectivement Stanislas qui ensuite a fait Doctolib et Philippe qui ensuite a fait Mano Mano. Eux, ils étaient là avant moi. Ils faisaient de l'investissement en startup pour Pierre-Édouard Sterrin aussi. Et le boss du bureau, c'était Antoine Fraisse à l'époque.
Qui a monté Carala.
Et donc, ils faisaient de l'investissement en start-up, mais c'était un investissement différent. Donc, ils investissaient que dans les loisirs. Ils aimaient bien être majoritaires dans les boîtes. Et donc, c'était vraiment une façon de faire extrêmement différente. Ils ont eu un portefeuille qui a eu, comme tous les portefeuilles, des succès et des échecs, mais notamment un grand succès qui était la fourchette. Et quand ils ont vendu la fourchette, conceptuellement, tout le monde est parti pour faire d'autres trucs. Il y en a qui ont touché de l'intéressement, d'autres non, en fonction de qui était arrivé à quel moment, etc. Et donc, Stanislas est parti faire Doctolib. Philippe de Chanville, il était parti avant. Lui, il était parti faire Mano Mano. Antoine Fraisse est parti avec Marc Laurent créer Kerala. Et donc, il restait plus personne, en fait, en
donc,
investissement.
Il fallait reconstruire une équipe.
Et il restait, donc, Bruno, dont je te parlais, qui à l'époque, n'était pas investisseur. Il était manager de transition pour plusieurs boîtes du portefeuille qui avait besoin d'aide. Et Bruno avait pitché à Pierre-Edouard de recommencer une activité en mode feuille blanche, quoi, avec une autre strat, une autre façon de faire, etc. Et donc, Bruno m'a recruté. Et on a commencé comme ça tous les deux. Et en commençant vraiment feuille blanche, quoi. Pas de brand name. Et quand les gens avaient pas d'image de marque d'Otium, et quand ils en avaient une, c'était vous investissez dans les loisirs en majoritaire. Donc pour faire de la tech en minoritaire, c'était pas trop ça. Mais bon, on avait une feuille blanche et de l'argent. Et donc on a petit à petit, on a construit notre truc, notre façon de faire. On a eu une grande chance, en fait, à ce moment-là, c'est qu'on a, comme on n'avait pas de mentor, on n'avait jamais fait d'investissement, ni Bruno, ni moi, on a dû tout inventer nous-mêmes. Et, comment on fait pour apprendre un truc au 21e siècle?
On
va sur Internet. et donc, on avalait à l'époque des quantités absolument industrielles de blogs de VC, parce que les VC passent leur temps à pondre des articles de blog, surtout aux US. Et du coup, on a downloadé, en fait, un knowledge de ouf à ce moment-là. On a tout appris en lisant des blogs, concrètement. Et là où on a eu vraiment de la chance, c'est que le moment où on a fait ça, c'était un moment où l'écosystème des VC français fonctionnait encore sur une vieille façon de faire, une vieille façon de penser, un vieux logiciel, qui était, en France, une boîte, quand ça réussit, c'est 100 millions d'euros et c'est pas plus. Quand je rentre dans une boîte, il faut que je négocie la valo à fond, parce que de toute façon, vu que je vais pas la vendre cher, il faut que je rince les entrepreneurs. Il faut que je pousse la boîte à être vite rentable, parce que comme ça je pourrais vite la vendre 3 francs 6 sous à je ne sais qui. Tout un mindset qui est pas comme ça qu'on fait de l'argent, quoi, en VC. Et le tout qui était sous-tendu par le système du financement du VC français à l'époque, qui était en gros l'argent de l'ISF. Donc les gens qui voulaient échapper à l'ISF, qui confiaient l'argent à des VC parce qu'il y avait un truc d'avantage fiscal, et qui implicitement leur disait tout ce que je veux, c'est échapper aux impôts, donc sois gentil, rends-moi une fois l'argent, prends pas de risque, et je m'en fous que t'essaies de me rendre 5 fois, parce que si tu me rends 5 fois, de toute façon je m'y attendais pas, et c'est pas ce que j'ai prévu. Par contre, si tu me rends 0 fois parce que t'as essayé de me faire 5 fois, là je vais être furieux. Donc rends-moi une fois, on en parle plus. Et donc les VC ont fait ce qu'on leur demandait de faire à l'époque, et ils étaient à l'époque très risque averse, très conservateurs. Donc nous, on a débarqué, on se rendait qu'à moitié compte à quel point c'était nouveau ce qu'on racontait, un peu, quand les gens se moquaient de nous, mais sinon...
C'est-à-dire les gens se moquaient de toi?
Bah forcément, quand tu débarques et que tout le monde est en train de dire une boîte en France, quand ça sort, c'est 100 millions dans le meilleur des cas, et que tu te dis mais pas du tout, pourquoi ça pourrait pas être plusieurs milliards? Et du coup, bah, ça me dérange pas de payer une valo plus chère, ça me dérange pas d'être hyper sympa avec des entrepreneurs à tous les niveaux, donc valo, terme, relations générales, etc. Bah, les autres, ils te regardent en mode le pauvre garçon, il a pas compris, en fait, parce que il croit que la boîte dans laquelle il est en train d'investir, ça pourra un jour valoir 1 milliard. Sauf que best case, ça va valoir 100 millions. Donc, toute son approche, il va vite se rendre compte que c'était une mauvaise idée, en fait. Et ça faisait marrer les gens, vraiment, littéralement, à l'époque. Et nos concurrents. Et néanmoins amis. Et donc, on a eu de la chance, c'est qu'on est arrivé avec ce discours-là à un moment où, d'une part, les VC historiques n'avaient pas encore ce mindset, ensuite ils l'ont eu, petit à petit, et d'autre part, où il y avait effectivement un truc qui était en train de se passer dans la tech, dans le monde et en France aussi, avec des boîtes qui naissaient, qui allaient devenir très grosses. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a investi dans notamment Payfit, Okin, Shipeo, qui sont des boîtes qui ont très bien marché ensuite. Et donc on a fait ça pendant 4 ans. On a le troisième membre de l'équipe, Gabriel, qui nous a rejoint très vite. Et on a fait ça, ouais, pendant 4 ans chez Otium.
Comment toi tu vivais cette position de VC qui est hyper intéressante, etc. Mais t'as pas un côté tu regardes les autres faire des succès, donc t'es là, t'es un peu le mec qui a investi, ok, mais c'est pas non plus ton argent, et t'as pas l'impression d'être, tu vois, le gars qui est à côté, qui supporte, mais t'as pas une petite envie quand même d'y aller
Ouais, bien sûr, c'est évident que t'as ce genre de truc, ce genre de pensée assez souvent, mais dans mon cas, pas trop, parce que je ressens vraiment très profondément que les trucs où je suis bon, on a tous des trucs où on est bon et des trucs où on n'est pas bon, il se trouve que les trucs où je suis bon, c'est les trucs nécessaires pour bien faire du VC. Et notamment, j'adore tout ce qui tourne autour de la notion de prise de décision. Donc, collecter des inputs, faire abstraction du bruit, se servir de sa tête et arriver à une conclusion et s'y tenir. Et ensuite, pousser ses pions dans ce sens-là.
C'est un truc d'entrepreneur, ça aussi, à partir d'un certain niveau.
Probablement, ouais. Mais autant. Mais alors, oui, tout est dans tout. Mais oui, il y a de ça dans l'entrepreneuriat. Mais par contre, dans le VC, ou dans l'investissement tout court, c'est fois 100, quoi. Et il y a beaucoup plus de ça et beaucoup moins d'autres choses. Et donc, ça, c'est le truc où je m'éclate. C'est l'activité où je m'éclate. Et il se trouve qu'en investissement, il y en a beaucoup. Et donc, ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi que j'adore la diversité des sujets. Parler le matin d'une boîte qui découvre des médicaments avec de l'AI et l'après-midi d'une boîte qui fait des fiches de paye et le surlendemain d'une boîte qui fait la livraison de course en 20 minutes, c'est je trouve ça vraiment exaltant. Et puis, évidemment, la relation avec les entrepreneurs qui sont à chaque fois des personnalités incroyables et ça, c'est vraiment un kiff tous les jours, quoi. Donc, ça me plaît tellement que évidemment de temps en temps t'as le petit grillon sur l'épaule qui te dit des trucs, mais c'est un petit grillon et donc c'est il y a des gens qui ont ce problème là mais moi pas trop en vrai.
Et donc tu fais ça pendant quoi, 4 ans?
Ouais, on fait ça pendant 4 ans et au bout de 3-4 ans on se dit que le moment qu'on attendait un peu dans un coin de notre tête depuis un moment, depuis presque le début, est en train d'arriver, que on commence à avoir un track qui est suffisant pour pouvoir créer notre fonds à nous et lever des fonds, quoi. Et c'était un peu le plan depuis le début et c'était plus ou moins clair avec tout le monde depuis le début. Et donc on se dit qu'on va faire ça et donc on part d'Autium, notre petite équipe de 3, et puis on crée une société qui s'appelle First. Puis on se dit, bon, maintenant, faut trouver des fonds. Et donc, on fait notre deck, et puis on ping tous les gens qu'on a pu croiser dans le passé, à des boards, à des events, à des potes de potes, des connaissances, etc. Et pour lever nos... alors, en plus, on avait été... pas très conservateur, on avait écrit qu'on voulait 100 millions, etc. Et je me souviens, au début, quand on expliquait ça à Pierre-Édouard, il avait dit, mais où est-ce que vous allez trouver votre pognon? On était au Hoxton, donc un hôtel dans le sentier qui est un peu le hotspot, qui était le hotspot des VC à Paris. Et je me souviens très gonflé de plein de trucs. Je dis à Pierre-Édouard, non, ça va être très facile. Rien que si je fais le tour de cette salle de resto, si en sortant, j'aurai déjà les 100 bars. Et bon, en fait, c'était plus compliqué. Et ça a pris 18 mois.
Punchline légendaire.
En fait, c'était plus compliqué. Ça a pris 18 mois. Mais bon.
Raconte-moi cette période de 18 mois. Moi, je me rappelle, chaque fois que je te voyais, c'était non mais c'est bon là, on va signer le fond, c'est presque bon, il manque ça, et c'était, il manquait toujours un truc. Raconte-nous cette période là les hauts, les bas, petites anecdotes, dis-nous tout.
Mais c'est d'abord au global, c'est très pénible quasiment physiquement et psychologiquement, parce que et d'ailleurs c'est pareil pour les entrepreneurs en général, hein, mais c'est toi évidemment tu joues ta vie, et en face les gens ils jouent pas leur vie évidemment, et encore moins les LP, les investisseurs qui investissent dans les fonds, parce que c'est des gens qui ont des timelines à 10 ans, c'est des gros paquebots qui naviguent très lentement, et c'est des gens qui sont capables de te dire oh super intéressant, ce qu'on peut faire c'est qu'on se fait un catch-up dans 6 mois.
Dans 6 mois t'es mort,
en fait. Et eux ils voient pas le problème, en fait, alors que toi t'es en train de fundraiser ton truc, et que si jamais tu trouves pas l'argent au bout d'un moment, tu vas juste devoir arrêter. Et donc, du coup, c'est un peu le choc des cultures. Et c'est, du coup, c'est extrêmement. Et la variable d'ajustement, en fait, c'est jamais eux. C'est normal, c'est des paquebots qui avancent à rythme lent. Du coup, la variable d'ajustement, c'est toi. Sauf que toi, t'es juste un humain. Et donc, un humain contre un paquebot, bah, tu peux ajuster quelques millimètres, mais sinon, tu te fais écraser, tu vois. Et du coup, c'est assez intense psychologiquement. Et c'est pareil, faut bien, avant de commencer ça, faut bien assesser objectivement sa réserve de psychologie et d'argent pour être sûr d'avoir assez de réserve pour traverser le désert, quoi. Ou avoir une bonne chance de traverser, en tout cas. Et effectivement, bon, bon an, mal an, on arrive en un an à rassembler 59 millions et quelques. Et l'histoire marrante, c'est que le LP principal dans ce pool de LP écrit dans son contrat que on n'a pas le droit de closer tant qu'on n'a pas 60. Et ça, il nous le dit à la fin. Et le truc, c'est que on avait déjà fait les fonds de tiroir, en fait, appeler tous les gens qu'on connaissait, aller chercher des trucs de 50 000, 100 000, je ne sais où, etc. Et on était à 59,5, mais post-discussion, pas prêt, quoi. Et donc, on se dit, OK, il nous faut 500 000.
Il a été exprès ou c'était un hasard?
C'était un hasard. Et on se dit, OK, il nous faut 500 000 euros de plus. Et tant que c'est pas arrivé, on close pas et on est avant l'été. Et à l'époque, tout le monde avait hyper peur d'une crise financière en été. Et donc, on court partout, on cherche, on fait les fonds de tiroir, des fonds de tiroir, etc. Et on n'y arrive pas, il nous manque...
500 000.
Il nous manque même moins que ça. Et miraculeusement, je parle à ce moment-là avec un mec qui travaille dans un fonds de fonds depuis longtemps et qui connaît très bien le game, de comment ça marche, ce genre de trucs. Et qui me dit, bah, dans ce cas-là, ton best play, c'est d'appeler un de tes gros LP et de lui demander de te signer un bulletin de souscription pour le montant manquant et qu'il écrive sur le bulletin de souscription que ce bulletin ne vaudra que si, d'ici un an ou deux, t'as pas réussi à le remplacer avec un autre argent. C'est un peu technique, mais c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Et donc, c'est bon, le truc est accepté et on close les 60 millions à l'été. Et donc là, instantanément, enfin, il y a vraiment un avant et un après, tu vois. Le moment où l'encre touche le papier, la veille, t'es juste
un mec, un galérien, qui dit qu'il va monter ton fond.
Et le lendemain, t'as un contrat sur 10 ans rock solide, quoi. Donc c'est, il y a vraiment un avant et un après.
Comment tu te sens à ce moment-là?
C'est
cool, hein.
Ouais, c'est cool. Bah, c'est bon, t'as le côté cool. Objectivement, c'est cool parce que bah ouais, c'est un fond, c'est fait exprès, by design, c'est pensé pour être un tank, parce qu'il faut résister aux bas, aux crises. Tu vois, typiquement, tu te prends un Covid sur la tête. Si jamais au moindre Covid que tu te prends sur la tête, tu vacilles et tu changes ta strat, bah c'est le meilleur moyen de pas gagner d'argent. Il faut vraiment pouvoir résister à tout pour pouvoir dérouler une strat sur 10 ans, etc.
Et toi, c'est une strat sur 10 ans ou sur 5 ans? Parce que souvent, on dit que c'est sur 5 ans, un fond.
La période d'investissement, c'est 3, 4, 5 ans, mais par contre, la durée de détention des boîtes, ça va être une dizaine d'années, et la durée du fonds, c'est une dizaine d'années. Donc, objectivement, évidemment, financièrement, etc., c'est très bien, et donc ça fait plaisir, ok. Mais il y a un autre truc qui est, quand t'as passé 18 mois à passer chaque seconde de ta vie dans un sens, à pousser dans un sens, le jour où t'as le truc, t'es content, quoi. Tu peux l'extrapoler à plein de domaines, c'est pas que pour la levée de fonds. Et effectivement, ça te fait un peu bizarre le jour d'après. Ok. Et maintenant, on va travailler. Et donc, on fait ça. Et donc, on close sur 60 millions. Donc, il y a 18 mois, l'été dernier. Enfin, l'été avant, l'été dernier. Et on prend du bureau. Et puis, c'est parti. On était content parce que en plus ça faisait longtemps qu'on n'en pouvait plus de pas investir parce que on avait continué à pas trop voir des entrepreneurs pour pas leur faire perdre de temps, mais malgré tout on savait ce qui se passait et on avait en tête quelques gens à aller voir, etc. Et donc on était vraiment très impatients d'investir. Et donc on a commencé. Donc 18 mois plus tard, là on en est à 12 investissements. Donc nous, notre sweet spot, c'est d'investir au tout début, comme on disait, des tickets qui vont de quelques centaines de milliers d'euros à quelques millions. Au tout début, on aime bien être le premier investisseur. À la louche, c'est en échange de 20% de la boîte, assez standard. Et le but du jeu quand on investit, c'est que 18-24 mois plus tard se passe une super belle série A avec un super bel investisseur international. Et nous, on est focus sur ce tout début, cette phase du recherche de product market fit, parce qu'elle est très différente de la phase d'après, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler de ton anti-portfolio ? Ça, c'est un truc que j'aime bien demander aux VC, c'est l'anti-portfolio, si c'est le bon terme. Hein. Mm-hmm. C'est toutes les boîtes de ouf sur lesquelles tu as passé. On ouais. t'a dit non, ça ne marchera pas. Typiquement, il y a des gros... Il y a les gros VC aux US qui aiment bien dire ah, nous on a passé sur Facebook, on a passé sur Google, et voilà les raisons qu'on avait évoquées à l'époque et tout ça, et c'est assez drôle.
Ouais.
Toi, c'est quoi ton anti-portfolio là, les 2-3 boîtes sur lesquelles tu as passé, et tu te dis quel con.
Ouais, c'est pas compliqué. Tous les succès de l'écosystème dans lesquels on n'est pas, on a été en meeting avec eux, et la plupart du temps, on a été en position de faire et on a passé. Donc, tous les succès dans lesquels on n'est pas sont dans l'anti-portfolio.
Donne des noms.
Non, mais le, tu vois, des boîtes géniales comme Back Market, le Alan dans une certaine mesure, Alma là, qui a fait un super tour.
Pourquoi
tu n'as
pas passé pas en Back Market ? Pourquoi tu... Donc, Back Market, donc les produits reconditionnés qui est hyper connu aujourd'hui, pourquoi tu as passé ?
Ouais. Le alors en l'occurrence, je vais plutôt te parler d'Alma, le qui est une super boîte de qui vient de lever 50 millions là de qui fait du crédit conso sur les sites de e-commerce, et pour le coup, je l'ai passé pour une raison rétrospectivement, je me tape la tête contre les murs. C'était que en fait, leur métier de faire du crédit en genre Cofidis en API en gros. Il y a une boîte européenne qui s'appelle Klarna qui le fait. Et qui est ultra leader en Europe, il cartonne, je sais plus combien ils valent, 10 milliards ou autre. Et pour une raison inconnue, ils sont jamais allés en France. Et donc le mec d'Alma, qui est super, super bon, il s'est dit, OK, je vais me faire la France. Et on s'était vu au tout début, quoi. Et je me souviens, alors dans mon cerveau, j'ai un doute sur si c'était au téléphone ou en physique, mais en tout cas, je me souviens, moi, en train de lui dire, je suis certain que tu vas cartonner la France. Ta boîte, elle, dans ma tête, elle vaut déjà 400 millions d'euros. C'est fait. Mais alors que c'était, il avait pas commencé. Mais par contre, sortir de France, j'y crois pas, parce qu'il y a Klarna. Et du coup, nous, notre case, c'est de faire des boîtes qui peuvent valoir 10 milliards. Et du coup, 400 millions, ça marche pas. Et du coup, on passe. Le truc, c'est que oui, ok, ça c'est vrai en théorie. En pratique, quand ça se passe vraiment comme ça et que le mec est super bon et qu'il exécute comme un ouf et que là d'ores et déjà, du coup, s'il a levé 50, ça veut dire que la boîte elle valorisait à peu près 400 dans ces eaux-là. Deux ans plus tard et que finalement l'Europe, on verra bien, mais peut-être qu'il est pas si mal placé pour la faire finalement. Bon bah là, c'était trop extrême et c'est assez dur de plus largement. C'est un petit peu un truc que je trouve assez difficile, c'est de, dans tous les domaines du business et ou même de la vie, c'est de pousser la radicalité, parce que sans radicalité t'as rien, et que tout le monde essaie de t'empêcher d'être radical parce que ça choque un peu les gens, et c'est les gens préfèrent que tout le monde soit dans le stream, soit normal. Du coup, d'un côté, c'est ton devoir d'être radical, et parce que si t'es pas radical, il se passe rien, et de l'autre, c'est très bien d'être radical, mais parfois c'est aussi possible d'être trop radical. Et du coup, il faut trouver la juste mesure.
C'est souvent ça qu'on dit sur les startups, c'est qu'au début, il faut se démarquer. Et pour se démarquer, il faut avoir un discours clivant. Parfois, ça peut être une bonne stratégie, parce qu'il y en a qui vont détester, mais il y en a qui vont t'adorer. Et toi, tu penses que c'est pareil dans le monde de l'investissement, du coup ? Parce que un peu ton différenciateur.
Au niveau du discours, utiliser la radicalité... Pour le marketing, ça marche, hein, y a pas de souci. C'est tu dis un truc choquant.
Donald Trump.
Par exemple, tu coupes l'audience en deux. T'as 50% des gens qui t'adorent, 50% des gens qui te détestent. Et bon, c'est toujours mieux d'avoir 50% que zéro. Ok, ça marche pour le marketing. Mais là, plutôt ce dont je parlais, c'était plutôt sur la radicalité de penser, de pousser des idées nouvelles ou différentes. Et en fait, une fois que t'as commencé à penser comme ça, t'es vite tenté d'en faire trop, quoi. Et donc, il faut trouver la juste mesure.
Pardon. Pour ne pas devenir Donald Trump.
Pour ne pas devenir Donald Trump.
Quoique, il est devenu président, mais bon. C'est vrai. Bref.
Et Elon Musk est l'homme le plus riche du monde.
Donc, et Elon Musk est l'homme le plus riche du monde aussi, ouais. Que des gens sympas. je ne les connais pas. Ok, ça, c'est génial. Du coup, qu'est-ce que toi, tu retiens pour l'instant de ton expérience chez First? Comment est-ce que tu vois le truc évoluer? Et voilà. Enfin, déjà, parle-nous de ton expérience à toi. Comment toi, tu as évolué aussi au sein de cette boîte-là? Ça, c'est la première question. Et après, j'en ai une deuxième un peu sympa.
Là, ce que je trouve intéressant, c'est que quand j'ai commencé à faire de l'investissement, le seul critère, enfin, le seul objet, c'était faire des bons investissements. Identifier des opportunités, des super entrepreneurs, des super opportunités. Réussir à investir chez eux et au début bah forcément ça c'est la première brique en fait et avec le temps il y a plein d'autres trucs qui arrivent parce que c'est aussi une entreprise donc il y a bon évidemment lever des fonds découvrir l'autre côté l'autre côté du miroir et se rendre compte qu'en fait du côté LP c'est de l'argent qui comprend assez souvent tellement rien au sujet des startups. Il y en a des très bons, hein, c'est pas le sujet, mais là, beaucoup. C'est des gens qui comprennent tellement rien au sujet des startups qu'il y a une vraie, ça apporte une vraie valeur de faire le pont entre d'un côté, des gens pour qui les startups c'est ahurissant et de l'autre, les entrepreneurs. Parce que, quand on va voir des LP, on passe assez souvent pour des excentriques. Donc, t'imagines s'ils voient les entrepreneurs en direct. Donc, y a un vrai rôle d'intermédiation. C'est une vraie création de valeur. Donc, ça, c'est un truc. Et puis, il y a ensuite, réfléchir à comment construire une entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? On fait du seed en France. On se débrouille bien sur ce créneau et on a une position qui est celle qu'on voulait quand on a commencé il y a quelques années, donc ça c'est cool. Mais ensuite il y a savoir ce qu'on va faire après quoi. Et donc clairement pour nous l'objet c'est d'être le partenaire du début des entrepreneurs de référence partout en Europe. Et ça c'est dans quelques années. Pour l'instant on fait notre MVP en France. Et comment est-ce qu'on va arriver à ça quoi. Donc il y a du recrutement, du marketing, de la philosophie, etc.
Et du coup, la question que je me dois de poser à un VC que j'ai enfin face à moi, pour tous nos auditeurs, il y a beaucoup de lieux communs sur les VC. On leur dit ouais, il faut que tu aies un bon pitch, il faut que tu sois comme ci, que tu sois comme ça. Des gens qui disent ouais, de toute façon, ils ont tous fait les mêmes écoles, etc. Un peu comme Anthony Bourbon de Field, etc. Ma question pour toi, c'est quoi toi les conseils? Qu'est-ce qui fait que tu investis dans quelqu'un? Si moi, demain, je monte ma boîte, je veux lever des fonds, tu me conseilles d'être comment? Sur quel point faut que j'insiste, etc.
Ouais. Bon, alors déjà, l'histoire du racisme, moi, je pense vraiment que c'est faux. L'avant-dernière entreprise dans laquelle on a investi, le CEO Huckleback. Alors évidemment, dans les faits, ça arrive quand même souvent qu'il y ait des gens qui aient fait des super études exigeantes, etc., qui fassent des trucs intéressants, et encore heureux, parce que le contraire serait étonnant. Mais pour autant, quand on voit des profils atypiques et qui ont fait des trucs de ouf, on est les premiers ravis. Ça, c'est mon dada. Mais ensuite, sur des conseils... Il y a un truc qui me chiffonne un peu souvent sur notamment beaucoup de médias pour entrepreneurs, etc. Parce que ça fait du bon contenu qui fait cliquer, c'est comment faire pour lever, comment faire pour parler au VC, comment faire pour pitcher, etc. En vrai, le comment faire, il n'est pas très important et ça mérite pas vraiment d'y passer du temps. Ce qui mérite d'y passer du temps, c'est de faire quelque chose qui est important, de faire quelque chose qui intéresse les gens, les clients, et de découvrir quelque chose que les gens ont envie d'acheter, quoi. C'est ça qui est important. Et si vous avez ça, le reste, c'est facile. Si jamais tu as un produit que les gens veulent acheter, t'inquiète pas que les VC, ils te feront des term sheets avant que tu aies eu le temps de dire ouf. C'est un peu comme en dating. Sur le moment, tu peux te persuader que ta coupe de cheveux est importante, Alors qu'en fait, elle est peut-être importante à 0,01%. Et ce qui est important, c'est qui t'es, qu'est-ce que t'as dans la tête, qu'est-ce que t'as envie de faire de ta vie, comment tu te comportes, etc. Et trafiquer ta coupe de cheveux pendant 2 heures, ça change pas grand-chose. Ben là, c'est pareil. Trafiquer ton deck ou ton pitch, ça sert pas à grand-chose. Ce qui sert, c'est de trafiquer qui t'es et ce que tu fais. Et mais ça, forcément, ça se vend pas dans une vidéo de 10 minutes, quoi.
Et c'est vachement intéressant parce que la dernière fois, je regardais, tu sais, il y a des entrepreneurs genre Mathilde Collin de Front qui partagent les decks avec lesquels elle a levé. Et au final, quand tu vois le deck, bah, y a rien de spécial, quoi. Il y a les mêmes slides que dans tous les decks du monde, un design moyen. Bref, c'est ce qui est impressionnant dans son deck, c'est les chiffres qu'il y a dedans. C'est pas du tout le fait de. Et d'ailleurs, pour tous les entrepreneurs qui disent qu'il me faut un bon deck, bah, tu vas sur le blog de Mathilde Collin, tu télécharges ses decks et voilà, hein, tu copies-colles, tu changes les chiffres dedans et c'est ça qui va faire la diff, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Et sinon, donc tu dis qu'il faut des chiffres, de l'attraction. À partir de quand quelqu'un qui lance sa boîte, il peut commencer à aller voir un VC? C'est quoi les premiers chiffres? Est-ce qu'il y a des règles?
Franchement, non, il n'y a pas de règles. Tu vois, là, on est en train de discuter avec une boîte qui n'a pas de produit, qui n'a pas de site, qui n'a pas de deck. Elle a juste 2 founders qui ont des parcours cool dans des belles boîtes tech. Mais c'est pas non plus Mark Zuckerberg. Ils ont des beaux parcours, mais voilà, ils ont notre âge.
Ils ont jamais levé de
trentaine. Ils ont jamais été entrepreneurs. Bon, il y a toute l'Europe qui leur court après. Et là, c'est la guerre ce soir là, notamment. Défoncer RIA avec des noms très connus, défoncer Seed, défoncer Multistage, tout le monde leur court après.
Après, quand tu dis ça, c'est que les gens après ils vont se dire, ok, alors moi aussi, je vais aller voir un VC tout de suite pour lever des fonds avant même d'avoir un produit ou quoi, parce que j'ai l'idée du siècle.
Bah ouais, mais le truc c'est qu'il faut être alors oui, t'as raison, c'est il faut de la même façon qu'il faut évaluer sans se raconter des histoires ses réserves en psychologie, en argent avant de se lancer dans le désert. Il faut aussi évaluer sans se raconter d'histoires à quel point est-ce que la proposition qu'on fait elle est appealing, quoi. Et c'est vrai que dans l'immense majorité des cas, les gens ont l'impression qu'ils ont un truc dans les mains alors qu'en fait ils en ont pas. C'est vrai. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, il y a une réponse qui est il y a pas de règles. Il y a une autre réponse qui est si jamais l'univers trouve que ce que t'as est pas suffisant alors que toi tu t'es certain que oui et que tu veux prouver à l'univers, et ben là il faut des chiffres, effectivement. C'est un peu en fait les chiffres ça bat tout, tu vois. C'est soit t'arrives à le faire a cappella, soit ils te font un orchestre derrière. Et donc si t'as des chiffres, et ben là les gens sont obligés de juger sur pièce, et puis voilà, effectivement.
Et ça sert à quelque chose de contacter les VC ou les VC viennent à toi? C'est pas comme Lagardère, quoi. C'est viens, ouais. Les VC viennent droit à toi, ou sinon ça sert à rien d'aller les voir?
Ouais, si jamais tu fais quelque chose qui est intéressant, tu te feras pinguer, c'est sûr. Donc il vaut mieux passer du temps à faire des choses qui sont intéressantes que à essayer de les contacter par tous les moyens, parce que si tu fais, enfin, tout le monde, tous les fonds mettent beaucoup de ressources pour crawler tout ce qui se passe, voir tout en permanence. Et du coup, si jamais tu fais quelque chose qui est un peu intéressant, tu vois, les gens dont je te parle là, ils ont posté un post sur LinkedIn en disant « Salut, on annonce au monde que nous deux, on s'associe et qu'on va faire ça, 5 mots. » Et voilà. Et le lendemain, il y a toute l'Europe qui leur court après, quoi.
Bon, c'est le cas, l'exception qui confirme un peu la règle de dire « Va pas au VC ». Même, en fait, ça confirme la règle que les VC, ils te contactent, quoi. Donc, ça sert à rien d'aller les voir.
Il y a toujours des cas, etc. Mais dans l'ensemble, c'est un peu la même chose que pour l'histoire du deck et tout. C'est, tu peux passer un petit peu de temps à faire un bon deck, tu peux passer un petit peu de temps à affiner ton pitch, tu peux passer un peu de temps à contacter des VC, mais un peu. Et ça, c'est tout ça est très secondaire et peu important. Là où il faut passer du temps, c'est faire quelque chose que les gens veulent acheter, quoi. C'est ça qui est important.
Génial.
Et peut-être un autre bout de conseil. Qui est tout simple, mais qui étonnamment est pas si évident, c'est que, comme dirait Didier Raoult, c'est pas interdit d'être intelligent, c'est pas interdit d'être malin, et dans le choix de son modèle, pas forcément de son sujet, parce que parfois il y a un sujet qui te tient à cœur, donc t'as envie de travailler, mais dans la façon de l'anglais, de savoir comment le prendre et par quel bout le prendre, il y a quelques trucs qui aident quand même. Il y en a deux qui me viennent en tête. C'est le premier, c'est le coût des gros clients. Donc souvent, les entrepreneurs jeunes qui ils vont bille en tête, ils se disent bon bah je fabrique un truc, je vais aller le vendre à quoi ? Une entreprise. Une entreprise, c'est quoi ? C'est les grands trucs avec des tours à la Défense. Du coup, je vais prendre ma petite valise et puis je vais aller à la Défense pour leur vendre des trucs. Le truc, c'est que ces gens-là, c'est l'enfer. Ça prend des années. Et non seulement ça prend des années pour avoir le contrat et l'argent, mais ça prend aussi des années pour avoir un retour sur ce que tu fais. Du coup, ta feedback loop, elle est hyper longue et elle est imbitable. Et du coup, t'arrives pas à faire évoluer ton produit sur la base de tes clients. Donc, à quelques exceptions près, pour un entrepreneur qui démarre, essayer de vendre à des grands comptes, c'est pas une bonne idée à mon avis. Il vaut mieux essayer de vendre à des petits comptes pour aller plus vite à la fois sur les contrats et sur l'argent, mais aussi sur la feedback loop pour avoir des feedbacks plus rapides. Et le deuxième truc, c'est le why now. C'est bête comme chou, mais il y a quand même des courants, des plaques tectoniques qui bougent en permanence. La Covid, c'est un bon exemple, mais il y en a toujours eu. Et il y a des moments où il se passe des trucs. Donc là, par exemple, en ce moment, si tu fais des tools de digitalisation pour les petits commerces, bon bah c'est sûr que t'as un peu le vent dans le dos, quoi. Et donc d'essayer de... Alors, c'est un équilibre fin, parce que t'as pas non plus envie d'être une girouette sans conviction. Bien sûr, mais malgré tout, essayer d'incorporer dans ce que tu fais un côté comment est-ce que ça va s'emboîter dans l'air du temps, ça aide pas mal quand même.
Et pour connaître l'air du temps, faut quoi ? Faut lire des blogs ? Qu'est-ce que tu conseilles de faire à quelqu'un qui voudrait sentir l'air, sentir le sens de l'air, du vent ?
C'est probablement difficile de donner une recette pour l'air du temps global. En revanche, c'est plus facile de donner une recette sur un petit morceau de l'air du temps. De se focusser sur un sujet et comme dirait Paul Graham, de vivre dans le futur sur ce sujet-là, en être super expert, quoi. Et pour ça, faut être authentiquement intéressé et tout bouffer de ce qui se passe dans ce sujet-là, quoi.
Magnifique. Pour conclure notre bel entretien, j'aimerais te poser des questions un peu plus deep pour comprendre un peu tes motivations. Bah déjà, c'est quoi toi ton but, ton objectif à terme? Quand est-ce que tu seras OK pour t'arrêter, quoi? Quand est-ce qu'on s'arrête?
Alors, comme je te disais, l'objectif de moyen terme, c'est que First soit le partenaire de référence du début de la vie des entreprises en Europe. Que ce soit pas possible de se dire que tu vas créer une boîte en Europe sans se dire que tu as envie d'aller lever de l'argent avec nous. Ça, c'est l'objectif de moyen terme. Et ensuite, ce qui est assez confortable en investissement, c'est que vu que pour plein de raisons, c'est un truc que tu peux faire très longtemps et tu peux moduler ta charge de travail, en fait. Donc là, évidemment, en ce moment, on est à fond, on fait que ça et on est surexcité. Mais si dans 30 ans, je décide que j'ai envie que ça me prenne qu'un tiers de ma journée et que le reste du temps, je ferai un autre truc, c'est possible aussi. Et comme j'adore ce que je fais, il est assez probable que je fasse de l'investissement jusqu'à ce que mort s'en suive.
Mourir sur scène. C'est quoi qui t'a poussé, selon toi, à entreprendre ? Est-ce que c'est, t'as dit un peu ta famille, ton héritage familial ? Est-ce que c'est les gens que tu fréquentais ? Voilà, pourquoi est-ce que t'as senti ce feu sacré de l'entrepreneuriat en toi, selon toi ?
Tu m'as gardé une question vachement intime pour la fin. Non, mais en vrai, j'ai toujours eu l'image de mon grand-père qui avait créé cette boîte. Et en fait, il est mort 20 ans avant que je naisse, du coup, je l'ai pas connu. Et je pense que ça a encore plus renforcé l'image un peu mythique, si tu veux. Et j'ai vraiment, je sais pas exactement pour quelle raison, j'ai passé toute mon enfance à avoir cette image dans la tête et à le grandir, à y penser, etc. Et donc pour moi, c'était vraiment évident, quoi.
C'est quoi ton conseil à ceux qui se lancent ? On a donné pas mal tout à l'heure, mais s'il devait y en avoir un.
Effectivement, ça tourne un peu toujours autour du même truc, hein. Peut-être faire des choses qui résonnent avec ses intérêts, avec sa personnalité. Ce qu'on appelle le founder market fit dans le jargon VC. C'est quand même plus facile. C'est possible de faire des trucs de façon désincarnée et désincarnée, mais c'est quand même plus facile quand ça fait vibrer, quoi. Donc, faut pas se mentir sur ses forces, ses faiblesses qui nous intéressent et le trouver parce que ça vaut le coup, quoi.
La plus grosse erreur que t'es faite dans ta vie professionnelle ?
J'ai pas envie d'appeler ça des erreurs parce que c'est pas une figure de style, c'est vraiment chaque connerie que j'ai faite, je peux la relier à 10 trucs bien qu'elle a provoqué derrière. Donc c'est pas vraiment des erreurs, mais c'est ça la réponse, c'est des erreurs, évidemment, comme tout le monde, j'en ai fait des tonnes, mais rétrospectivement elles m'ont toutes si jamais il m'en manquait quelques-unes dans le passé, et ben le mois d'aujourd'hui serait différent, et du coup du coup j'ai pas envie de les appeler des erreurs, mais tu vois, par exemple, un truc on en parlait tout à l'heure, le coup de penser sur un business à BFR négatif, le coup de penser que ton associé fait la compta et que lui il pense que c'est toi qui fais la compta, et ben c'est difficile de faire plus erreur que ça. Et bah pourtant, ça m'est vachement utile au quotidien, parce que quand je vois des entrepreneurs qui font nimp sur ce sujet-là, ça serait facile de se dire que c'est des abrutis, alors que ça m'est arrivé il y a quelques années. Donc je me remets dans le mindset de l'époque, j'essaie de comprendre comment ça a pu arriver que ça soit comme ça, et ça m'aide à mettre en perspective. Donc c'est un exemple d'erreur qui est en fait très bien.
Et le mot de la fin, du coup, je te laisse terminer avec qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer cet entretien.
Je vais revenir sur l'idée de faire des choses qui résonnent avec ses intérêts, parce que il y a quand même énormément de gens qui n'aiment pas ce qu'ils font de leur vie, leur travail ou whatever, et qui sont pas au courant du fait que c'est possible de kiffer ce qu'on fait. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment une façon d'atteindre ça. Alors évidemment, les premières années sont dures, mais c'est une façon d'atteindre ça. Et ça vaut le coup, une fois de plus, d'être honnête vis-à-vis de soi-même, avec là où on est fort, là où on n'est pas fort, ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse pas, et de double down sur ça, parce que quand on arrive à calibrer le truc et à exploiter ça, ça vaut le coup, quoi.
Génial, merci pour ces belles paroles, Pierre. Un grand merci aussi aux auditeurs, on a passé la barre des 100 000 écoutes en 2020. Donc continuez à recommander le podcast, c'est important pour nous, ça permet aussi de faire découvrir des histoires de ouf comme celle de Pierre et celle de tant d'autres. Merci beaucoup et à bientôt, salut. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.